De l'art ou du cochon, par Géode Ham. Enregistré par Christiane Jehan. 17h15, grande galerie du Louvre, je me repose enfin après 3 jours dément. 3 jours à courir à travers ce labyrinthe artistique qui est devenu le Grand Louvre. J'avais fait le pari, stupide comme tous les paris, me direz-vous, avec mes copains de Marseille, de parcourir en 3 jours ce musée jusque dans les recoins de ses salles les plus reculées et les moins visitées. Pour témoin, je dois rapporter des photos. J'ai investi une fortune en pellicules et en droits de photographier. J'ai moissonné un maximum d'images, tant d'œuvres que de vues d'ensemble des salles. Je ne peux plus voir le Louvre en peinture, c'est peu de l'affirmer. Que dire de la note du photographe pour le développement? Quel pari imbécile! On ne m'y prendra plus de sitôt. Surtout que traverser les salles au pas de course, ce n'est rien. C'est le temps de pose et de cadrage qui prend un temps fou. Le flash est interdit et impose des temps d'exposition plus longs, une installation sur pied. Il y a toujours un touriste qui vient se planter devant l'objectif. Les photos doivent être bonnes pour ne pas être contestées. Outre les galéjades auxquelles j'aurais droit, il se trouverait bien un petit malin capable de venir sur place contrôler l'exactitude du pari. Il reste un quart d'heure avant que les gardiens préparent la fermeture. 3 jours que je suis ici, dès l'heure d'ouverture jusqu'à la dernière minute, quand les agents en uniforme poussent les touristes vers la sortie. J'avoue que je suis soulagé de cette échéance qui voit la fin de mon pensum consenti avec stupidité. Mais je suis aussi satisfait de moi-même. J'ai réussi. J'ai tout vu, entrevu surtout et parfois photographié. Les peintures, les sculptures, les dessins, jusqu'à la salle de consultation que j'ai eu l'autorisation exceptionnelle de mettre en boîte grâce à un subterfuge. J'ai fait croire que j'étais un étudiant en art plastique venant de New York et préparant un article pour mon université. Le jeune documentaliste n'a pas été dupe, mais ma tête a dû lui plaire beaucoup à en juger par l'attention rapprochée dont il m'honorait, ce qui était moins de mon goût. Je n'ai pas prolongé mon entretien avec le dit Carole, ainsi que je l'ai entendu dénommer par ses collègues préposés. Puis les objets d'art, les antiquités grecques et romaines, l'Égypte, m'ont vu naviguer entre les groupes de touristes. Je me suis perdu dans les bas-fonds des fondations datant de Philippe Auguste et mises en valeur sous la cour carrée. J'ai photographié la pyramide sous tous les ciels de jour et de nuit. J'ai même tourné autour du palais afin de le saisir sous tous ses angles. Bref, je crois avoir mis en boîte de quoi satisfaire toutes les exigences. Dans 3 heures, je prends l'avion pour Marseille. À l'aéroport, tous m'attendront pour être témoins de mon arrivée dans les délais impartis. 5 minutes encore, je vais en profiter pour aller aux toilettes. Déjà, presque tous les touristes ont déserté les salles au parquet ciré où se reflètent les éclairages indirects des projecteurs et la luminosité diffuse des verrières. Déjà, on a l'impression d'avoir le musée pour soi tout seul, être un prince dans son palais. Je vais là où le roi va à pied, et ce lieu fonctionnel et étroit n'a rien de royal, tout juste des publics, et pas très net en cette fin de journée. Enfin, c'est bien suffisant pour satisfaire un besoin naturel. Je ne m'attarde pas, sinon je vais être houspillé par des gardiens impatients. Je veux ouvrir le verrou, lorsque là... tout bascule. L'absurde, le grotesque arrive, la serrure est bloquée. Je ne bougonne pas encore et très calme, entreprends de faire fonctionner ce stupide mécanisme, mais rien à faire, le verrou ne veut rien entendre. J'essaie avec un peu plus de fermeté de l'actionner, puis je le secoue avec vigueur. Toujours rien. Même le coup de pied bien asséné est inefficace. Je me sens très ridicule. Je tambourine à la porte et crie pour appeler du secours. Le silence répond à mon chahut. Un silence total, angoissant. Pas le silence qui se voile d'un bruit de fond, de vie. Non, un vrai silence vide qui résonne. Je regarde ma montre. 17h30, pile. Les gardiens ne vont pas tarder à passer. Je suppose qu'ils visitent aussi les toilettes, afin de ne laisser aucun resquilleur ou plaisantin derrière eux. Je vais donc continuer à signaler ma présence. 17h35, 17h40, 17h50, ni mes cris, ni mes coups, ni mes sifflets n'attirent qui que ce soit. Je suis d'autant plus en colère que je me sens en posture si risible que même mes éventuels sauveteurs ne pourraient s'empêcher de me rire au nez. Avant de me mettre à la porte, peut-être Manu Militari comme un vulgaire fraudeur. Le temps passe. Ils vont bien faire une ronde, non d'une pipe. Pour ma malchance, ils ne font le ménage que le matin, juste avant l'ouverture. Dans mon sac photo, je trouve une lime et j'entreprends de dévisser la serrure. Je ne peux même pas m'entraîner à jouer les cambrioleurs. On n'a jamais vu un voleur s'escrimer sur un verrou de lieu d'aisance. L'aisance, en l'occurrence, est absente de ce local exigu et la porte s'ouvrant vers l'intérieur, impossible de la forcer à coups d'épaule. Je sens que je touche au fond du grotesque. J'ôte à grand-peine, avec deux ongles cassés, le cache de la serrure, et là, cela ne m'apporte rien, le système refuse toujours de s'actionner. Je renonce à décrire mes séances de hurlements alternées de stations assises sur le siège percé. Je ne sais plus si je dois me livrer à ma colère ou à mon désespoir. De toute façon, vu l'heure, j'ai raté mon avion, perdu le pari, au moins aux yeux les plus acharnés de mes contre-parieurs. Toute la fatigue de ces trois jours me tombe sur les épaules. Épuisé, je me laisse glisser au sol, et assis, la tête appuyée contre la porte maudite, les pieds de chaque côté du trône, je somnole aux trois quarts, le dernier quart, mon estomac réclamant quelques pitances. Je trouve deux pastilles Vichy dans une poche de ma veste et les suce avec le plaisir ultime du condamné. Mes yeux se ferment, malgré moi, j'abandonne. Je m'abandonne. Lorsque je me réveille, je suis dans l'obscurité complète. C'est le comble. J'ignore l'heure qu'il est, ma montre n'est pas lumineuse, mes yeux peu à peu s'habituent au noir et à la vague lueur de chandelle du bloc sorti qui signale la porte. Je voudrais bien sortir, moi aussi. D'un geste machinal, distrait, je manipule sans y croire la molette du verrou. Qui tourne ? Je tire la porte à moi, franchis le seuil, et me retournant, me penche pour récupérer mes affaires. Là seulement j'ose respirer, faut-il y croire ? Cette saloperie de verrou a enfin fonctionné. Par quel miracle ! Dire que je me suis tant acharnée. Je me pince tout en allant à tâtons allumer la lumière. Là, soudain, tout semble redevenir normal. Je regarde l'heure, il est 20:00. Bravo et merci le Louvre et ses commodités pas commodes. J'ouvre la porte des toilettes, la lumière tranche un mince trait blanc sur le parquet de la salle obscure. J'éteins, pas besoin de me faire remarquer tout de suite. Je passe la tête avec prudence. Là-bas et là-bas, je regarde immédiatement des petits yeux rouges. Mais bien sûr, l'alarme est mise. Dès que je vais me déplacer, je vais tout déclencher. Pauvre de moi. Tant pis, je me risque. Je longe les murs. Manque m'arracher une oreille au cadre d'un immense tableau qui descend bas. L'éclairage de nuit laisse à peine deviner les obstacles. Je me demande encore comment tout ne s'est pas mis à hurler à chacun de mes mouvements. Soudain, j'interromps ma lente progression assez inutile. Je ne pourrais aller loin. J'entends du bruit. Des gardiens arrivent. Ils discutent dans la salle voisine et je remarque les voyants rouges qui sont éteints. Ils ont coupé l'alarme pour leur ronde au moment où je suis sortie. C'est peut-être ma chance. Je me glisse le long des murs avec tout à coup l'envie de me cacher. Le fantastique de l'aventure m'apparaît. Pourquoi vouloir arrêter cette découverte nocturne du plus grand musée du monde en ce palais si chargé d'histoire ? Jamais pareille chance ne se reproduira. Cependant, il est urgent que je me cache, les gardiens ne doivent pas me voir. La chance enfin semble me sourire. Une poignée dans la tapisserie murale, je la tourne et le miracle s'accomplit cette fois. Je me glisse dans l'entrebâillement et ai juste le temps de repousser la porte. Le pas des agents croise ma cachette, puis décroît à un rythme normal. Ouf ! Je m'intéresse quelques instants au local où je me trouve. Il est éclairé par les hautes et gigantesques fenêtres qui trouent les façades du Louvre et qu'on ne retrouve pas dans certaines salles. Je suis dans le doublage des murailles qui font des salles d'exposition des pièces aveugles, ouvrant seulement sur une verrière, presque un passage secret. Si escabeaux, vieux pots métalliques et autres balais n'encombraient l'étroit espace. La poussière soulevée par ma vive intrusion me chatouille le nez, je vois danser ses grains dans la lueur orangée du lampadaire planté de l'autre côté de la rue. Je me retiens d'éternuer et je délaisse ce refuge très provisoire. Si je veux circuler dans le musée, je dois en fait suivre les gardiens à distance. Pas trop près pour ne pas être repéré, pas trop loin pour échapper aux radars lorsqu'ils seront remis en fonction. Une vraie filature. Mes semelles heureusement silencieuses me permettent de marcher sans bruit et à la lumière tamisée des rondes, je me glisse comme un fantôme. Un frisson me parcourt le dos, mêlé de plaisir et d'un peu d'angoisse. Ce soir, je suis le fantôme du Louvre. Me voilà à nouveau en course. J'avoue cependant qu'à minuit passé le moment de délectation du fruit défendu et du goût du risque, après 3 jours à cavaler dans le musée, je me lasse vite. En réalité, je suis crevé, et revoir ces salles dont je croyais il y a seulement quelques heures être débarrassé pour longtemps ne m'intéresse pas beaucoup. Même l'éclairage particulier et l'immense solitude ne semblent pittoresques que fort peu de temps. Je n'ai qu'un désir, dormir. Mais où ? Je suis loin de ma première cachette et, à vrai dire, j'ai guère envie d'y revenir. Tout à coup, dans la salle qui précède celle où je piétine, les gardiens stoppent. Ils attendent une autre brigade et, à leur conversation, je crois comprendre qu'ils vont descendre l'escalier d'honneur, le grand, le gigantesque escalier, se croiser avec leurs collègues et repartir chaque groupe dans sa direction pour parcourir l'étage inférieur. Cet escalier, je le connais. Il me sera impossible d'y suivre les gardiens. Je vais me faire prendre dès la première marche. En fait, je m'en moque un peu. Mais cela sous-entendrait à coup sûr, sinon un interrogatoire serré, du moins des interrogations nombreuses, qui m'empêcheraient de me reposer de sitôt. J'hésite. Vais-je tenter le coup ? Un trait noir dans le lambris et le mur jusqu'à la hauteur d'un homme bras levé me signale une porte. J'avance. Et je touche la poignée. C'est la nuit des portes magiques, me dis-je. Cette formule subite me vient à l'esprit comme une incantation, une prière, un sésame. Cette porte va-t-elle s'ouvrir ? Va-t-elle déclencher une alarme ? Sur quoi donne-t-elle ? À nouveau, mon attention et ma curiosité sont en éveil. Oubliez la fatigue. Je croise les doigts, presse la poignée, qui tourne. Pour un diabolique verrou coincé qui se décoince miraculeusement, que de serrures accueillantes à ma découverte. Je commence à douter de la réalité. Inutile de me pincer, je sais, pour l'avoir déjà vécu, que je peux rêver que je me pince, rêver que je ressens une douleur, et rêver que je suis bien éveillé sans pour autant cesser de dormir un instant. J'ai des rêves très réalistes. Je pousse la porte et me glisse dans l'obscurité complète. J'ose à peine pénétrer. Je me fais tout petit le long du mur pour me retourner et jeter un coup d'œil au monde sombre, méconnu et rassurant que je vais abandonner. Déjà, je vois les yeux rouges, sardoniques et implacables, mais ô combien civilisés, qui se rallument. Trop tard pour revenir dans l'univers vivant du palais. Je repousse la porte et demeure un instant immobile. Je n'ai pas l'esprit très imaginatif, mais là, vraiment, l'atmosphère particulière m'inspire une vague crainte, mêlée de merveilleux. Peu à peu, mes yeux s'habituent à l'obscurité, et de ne rien y voir développe, c'est logique, l'instinct des autres sens. Là, à portée de main, j'imagine un obstacle. Je le touche, d'ailleurs, c'est un cadre de tableau. Dans mon dos, l'aspérité se trouve être un commutateur électrique. Espérant que la porte bien refermée ne me trahira pas, j'allume. La lumière crue des néons clignote avec agressivité avant de s'installer et d'envahir la pièce, désacralisant en toute brutalité ma cachette. Oui, c'est bien ce que j'ai vu. Ce sont des cadres et encore des cadres, pleins de cadres vides, très poussiéreux à première vue et en mauvais état pour certains. Je suis dans une des réserves du Louvre. Un des lieux sacro-saints de ce labyrinthe consacré. Rare est le public non averti qui peut se vanter d'avoir visité ces salles secrètes. Surtout celles où ne s'entassent finalement que des horreurs cassées comme un vieux grenier, car en explorant davantage, je dois me rendre à cette évidence. Je suis un peu déçu, comme si on n'avait pas tenu sa promesse. La nuit des portes magiques pour aboutir à ça. Tout d'un coup, il me vient à l'idée que la porte s'était peut-être refermée à clé. Décidément, l'imagination me joue des tours cette nuit. Je vais à la porte et avec une délicatesse extrême, j'actionne la poignée et l'entrebâille à peine. Ouf ! Je ne vais pas a priori mourir ici de faim et de soif. Dans quelques années, on aurait retrouvé mes os blanchis au milieu des cadres vieillards. J'imagine déjà la scène et les gros titres fantastiques des journaux. Je suis en plein délire. L'absurdité ne m'apparaît même plus. Une vieille banquette, couverte de toile noire, usée à la corde, et qui laisse exploser son crin crasseux, me semble malgré tout accueillante dans un coin de ce Capharnaüm. Je décide de profiter des heures à venir, il est à peine plus de minuit, pour ronfler, en silence, un peu, et, éteignant les néons, je me dirige à la lueur de mon briquet vers ce lit de fortune. En face, juste à la hauteur des yeux, sur une des grilles coulissantes où sont accrochés les moins abîmés des cadres, se trouve une série de petites toiles. À la lumière tremblante de la flamme, ces mini-tableaux apparaissent en mauvais état, certains encadrés, d'autres pas, la peinture usée comme grattée par endroits. L'un d'eux est crevé, mais ces petites scènes de 20 cm sur 20 retiennent mon regard. Même sans la nécessité de garder le silence, je serais muet. Comment décrire ces étranges peintures où les froufrous et la mode du grand siècle dévoilent avec largesse et ostentation des morceaux d'anatomie de personnages en position plus qu'érotique. De la pornographie grand style. Étrange et désuète, comme déplacée en ces décors et costumes d'un temps où l'on n'imagine pas qu'elle ait pu exister ou du moins être posée et peinte. Je me brûle les doigts à mon briquet pour tâcher de décrypter ces scénettes d'une indécence extraordinaire et qui, malgré leur crudité hardie, n'ont pas de vulgarité vraie. Elles ressemblent plutôt à des provocations narquoises à mes yeux du XXe siècle que rien ne devrait choquer. Je nage en plein rêve. La réflexion qui me vient à l'esprit, est-ce de l'art ou du cochon, me donne l'assurance que je suis plongé dans le plus profond sommeil. À coup sûr, je vais me réveiller quelque part dans les du Louvre ou dans mon lit. Je déchiffre la signature du peintre. Jacobsen. Connais pas. Abasourdi, je m'assieds sur la banquette crevée et lâche ma pression sur le briquet. Dans l'obscurité revenue, je scrute la direction des petits tableaux comme si, par miracle, ils allaient m'exposer encore l'ironie osée de leur personnage galant en plus encore galante posture. Jacobsen, dans mon cerveau surmené, ce nom peu à peu se décompose, Jacobsen, oui c'est cela, ma nuit au Louvre déchaîne en moi je ne sais quel cataclysme inventif et railleur qui s'inspire de la rumeur disant que des peintures érotiques, voire obscènes, signées par quelques grands maîtres, sont cachées dans les réserves du musée. Je débloque à fond. Il s'agit peut-être, voire plus sûrement, d'un « à la manière de » tout à fait moderne, une imposture peut-être, même contemporaine, une plaisanterie grand style. Bien que la façon dont sont abîmées ces œuvrettes, grattées ou crevées aux endroits délicats, comme des cibles impudiques, laisse penser le contraire. Alors cependant que le jeu sur le nom de leur auteur réactive le doute et la suspicion. Bref, la foule des interrogations est telle que je vais rallumer les néons et bien qu'ils m'apportent plus un contre-jour qu'autre chose, je photographie l'étoile. Là, j'utilise le flash sans scrupule. Ces tableaux ne sont pas prêts de revoir le jour. Ainsi, au cas, bien irréel, où je ne rêverais pas, j'aurais une preuve de ma découverte. Puis j'éteins à nouveau et vais m'allonger sur mon lit de fortune, juste assez long pour moi. Je m'endors, du moins je le crois, tandis que Jacobsen, de l'art ou du cochon, les scénettes et Jacobsen dansent une sarabande infernale dans mes méninges. Je me réveille plusieurs fois à cause de l'étroitesse de ma couche, du froid qui tombe des cimaises, une très mauvaise nuit en somme. J'entends la ronde matinale des gardiens de nuit, mais je n'ose me manifester, puis les agents de jour qui font le ménage avant l'ouverture au public. Il est largement plus de 9 heures, lorsque je me décide à envisager une sortie. Le pourrais-je ? Il me semble que le lourd secret de cette nuit devra se payer. Quel sera son prix ? Avant de m'éloigner, je jette encore un coup d'œil à la lueur de mon briquet au petit tableau. J'ai l'impression un peu coupable d'avoir violé l'intimité, très intime, des personnages aux sourires moqueurs aussi épanouis que leur forme. Le reste relève tout autant du rêve que la nuit. Je sors sans problème, me glisse entre les touristes sans être inquiété ni même remarqué. Oublié le pari raté, je vais à la documentation du département des peintures et demande des renseignements sur un certain Jacobsen. La documentaliste, une petite souris grise et efficace, me fournit les dossiers, l'inventaire des œuvres possédées par le Louvre, tout. Et là, l'extraordinaire se poursuit, nulle trace nulle part de la série des petites œuvres érotiques. Rentré chez moi à Marseille, je tente de raconter mon aventure nocturne, mais tous la prennent pour une galéjade, tous pensent que j'invente, pour excuser la perte de mon pari. Alors, je ne leur montre pas les photos des petites toiles. Les clichés sont mauvais, on y discerne mal ce que Jacobsen a peint. Pourtant, je les reconnais, mais c'est mon secret. Elles sont la réponse que je ne cesse de me poser. Jacobsen, Jacobsen, est-ce l'art ou du cochon ? Je garde une étrange tendresse pour mon aventure. Les autres me traitent de fada, mais je m'en moque. 5 mars 1993, 3 heures du matin. Ici se termine « De l'art ou du cochon » par Geode Ham. En lecture libre sur atramenta.net, enregistré sous licence CC BY NC ND 3.0.